Pour ouvrir notre débat, penchons-nous sur la place de la Banque centrale en RDC. Historiquement, sa création précède même l'indépendance du pays, ce qui interroge sur sa véritable origine. Peut-on vraiment la considérer comme une institution congolaise au sens plein ?
Excellente question. José Kimonyo nous rappelle que la Banque centrale du Congo fut fondée par la Belgique en 1951, avant même l'indépendance. C'était d'abord un outil de contrôle colonial, destiné à maîtriser l'économie locale. Après 1960, l'institution a simplement été rebaptisée, perpétuant un modèle importé plutôt qu'un outil réfléchi pour le contexte congolais.
Intéressant. On fait donc souvent l'amalgame entre souveraineté nationale et création monétaire, comme si elles étaient indissociables. Mais d'autres pays, comme les États-Unis, n'ont adopté leur banque centrale et leur monnaie nationale que bien après leur indépendance. Que nous apprend cette comparaison ?
Pour lui, elle montre que la souveraineté économique ne découle pas mécaniquement de la création d'une banque centrale. Les États-Unis, par exemple, ont vécu plus d'un siècle sans banque centrale et 9 ans sans monnaie nationale. Ce n'est donc pas une exigence universelle, mais bien un choix de modèle institutionnel, souvent hérité plus qu'adapté.
Pourtant, en RDC, la nomination des dirigeants de la Banque centrale ne suscite ni débat ni attention. Est-ce symptomatique d'un manque de rôle stratégique réel ?
Absolument. Il insiste que si changer le gouverneur n'entraîne aucune secousse, c'est que la Banque centrale agit plus comme un symbole que comme un véritable acteur sur l'économie réelle. Cette inertie institutionnelle, héritée du passé, mérite d'être questionnée à la lumière des défis actuels.
Passons à la situation monétaire concrète. Aujourd'hui, le dollar domine littéralement tous les aspects de la vie économique en RDC, des marchés aux hôpitaux. Comment expliquer cette suprématie et quels en sont les effets tangibles ?
Pour Sekimonyo, la domination du dollar s'explique par la perte de confiance dans le franc congolais due à l'hyperinflation chronique et à l'instabilité politique. Le dollar s'est imposé comme une valeur refuge, inspirant confiance dans les transactions du quotidien jusque dans l'économie informelle. Cela permet une stabilité des prix, mais réduit l'État à un rôle d'observateur.
Il est frappant de constater que malgré cette dollarisation de fait, les pouvoirs publics s'accrochent à la fiction d'une souveraineté monétaire. Quels sont les coûts de ce maintien artificiel du franc congolais ?
Il se plaint que entretenir une monnaie nationale dépréciée engendre des coûts importants. Impression, sécurisation, gestion logistique, pour une devise que personne n'utilise vraiment. Politiquement, cela alimente des déficits publics, encourage la planche à billets et entretient une illusion de contrôle, alors même que la réalité du terrain est tout autre.
Peut-on imaginer une suppression pure et simple du franc congolais au profit d'une dollarisation totale ? Quels exemples internationaux pourraient guider la RDC ?
Il souligne que certains pays, comme le Panama, le Kosovo ou le Monténégro, ont franchi le pas, renonçant à toute monnaie nationale. Résultat, plus de stabilité macroéconomique, moins d'inflation et une meilleure intégration sur les marchés mondiaux. Pour la RDC, cette option serait loin d'être une capitulation, mais pourrait être un levier de rigueur budgétaire, à condition de bien accompagner la transition.
Supposons maintenant que la RDC supprime sa banque centrale. Comment l'État gérerait-il concrètement ses finances, notamment le trésor public ? Faut-il craindre une perte de contrôle stratégique ?
Sa réplique est qu'aujourd'hui déjà, l'État utilise principalement les banques commerciales pour ses opérations courantes. Paiement des taxes, salaires, transactions administratives. À l'échelle internationale, des systèmes de compensation interbancaire ou clearing houses assurent la fluidité des paiements sans intervention d'une banque centrale nationale.
Mais placer l'argent public dans des banques privées, parfois à capitaux étrangers, n'est-ce pas risqué pour la souveraineté financière ?
Pour lui, le risque existe, mais il peut être atténué par des règles strictes. Par exemple, on pourrait exiger que seuls les établissements à majorité congolaise gèrent les fonds publics. Cela limiterait la captation des ressources nationales par des groupes étrangers, tout en stimulant le secteur bancaire local par la concurrence et l'innovation.
En poussant plus loin, pourrait-on transformer cette mutation en opportunité pour le tissu bancaire congolais ?
Il dit que certainement, la disparition de la banque centrale pourrait favoriser le développement de banques coopératives, de mutuelles ou d'acteurs locaux. Cela encouragerait l'inclusion financière et l'émergence de nouveaux services adaptés aux réalités du pays, plutôt que de s'en remettre à des institutions lourdes et peu réactives.
Revenons sur la notion de souveraineté. Faut-il impérativement conserver une banque centrale et une monnaie nationale pour être vraiment maître de son destin économique ?
Pas nécessairement, je sais qu'Imonio fait savoir. La souveraineté ne se limite pas à la possession de symboles hérités, mais à la capacité d'élaborer des mécanismes efficaces adaptés à nos ambitions. La France et l'Allemagne, par exemple, n'émettent plus leur propre monnaie, mais restent des puissances économiques grâce à des politiques pragmatiques et intégrées.
Pourtant, certains craignent que la dollarisation prive la RDC de toute marge de manœuvre en matière de politique monétaire. Est-ce un risque réel ?
Pour lui, c'est un risque relatif. Certes, sans monnaie nationale, on perd la faculté d'ajuster ses taux ou de dévaluer pour stimuler l'économie. Mais, comme l'a montré l'expérience de la zone euro ou du Panama, cela force l'État à la rigueur budgétaire et à des choix économiques responsables, sans la tentation de la planche à billets.
À l'inverse, une banque centrale modernisée pourrait-elle redevenir un levier de développement, par exemple en soutenant le crédit et l'entrepreneuriat local ?
Il est d'accord, mais cela impliquerait une transformation profonde. Elle devrait cesser d'être un simple gestionnaire de réserves pour devenir un acteur du financement, incitant à la création d'un vrai marché du crédit, à l'urbanisation et à la montée d'une classe moyenne. Cela exige de l'expertise, pas seulement du loyalisme politique.
En conclusion, la vraie souveraineté serait donc celle qui ose redéfinir ses outils, quitte à rompre avec certains dogmes historiques.
Exactement, c'est ce que José Quimonio dit. Il s'agit de dépasser le réflexe de conservation pour inventer des institutions alignées sur les aspirations réelles du pays. La prospérité ne viendra pas de symboles, mais de dispositifs concrets, efficaces et conçus pour servir le bien commun dans la durée.